Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, Lille de France Bleu RCFM, Ajaccio. Et en direct de la capitale tunisienne, Mayada Sili de Radio Tunis, chaîne internationale. Bonjour Mayada.
Bonjour Thomas, bonjour à tous nos auditeurs, où qu'ils soient en Méditerranée.
Allez, je commence par présenter le sommaire de ce numéro de Cantara. La France, nation démocratique, est dotée de juridictions d'exception pour traiter certaines affaires de grand banditisme ou de terrorisme. Vanessa Codaccioni, historienne, sociologue, est l'auteur de l'ouvrage « Justice d'exception ». Pierre-Louis Alessandri l'a rencontré. La culture comme riposte au terrorisme en Tunisie. Semama était désignée capitale universelle de la culture montagnarde. Le mont Semama, dans le gouvernorat de Kasserine, est une zone d'affrontement entre militaires et terroristes, et les terroristes qui s'y cachent. Cette désignation est un hommage à tous les bergers, hommes, femmes, enfants, et les soldats qui ont trouvé la mort et qui ont choisi la culture comme arme.
Les relations entre l'Égypte et l'Afrique sont fortes. L'Égypte est notamment membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mais comment les Africains voient-ils l'Égypte? Dina Abdelmajid a posé cette question à un groupe de jeunes journalistes africains. À Madrid, l'arrivée au Rayo Vallecano d'un joueur de football ukrainien proche de l'extrême droite provoque la colère des supporters du club. Le joueur apparaissait en photo sur les réseaux sociaux en compagnie de militants de l'extrême droite ukrainienne. Les supporters ont gagné, le joueur est parti, mais les instances du football espagnol sont mécontents. Et enfin, nous irons à Casablanca pour la 13e édition du Salon international du livre et de l'édition qui s'est tenu cette semaine. L'invité d'honneur était cette année les pays africains. Nadira Belkhoutout y était.
Cantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chaîne 3, Linda Boidma, Radio Extérieure d'Espagne, Imane Ouazar, Chaîne Inter Rabat, Nadira Belkhoutout et Mohamed Chafoui, Radio Le Caire, Dina Abdelmeguid, Radio Tunis, Chaîne Internationale, vous l'entendez, Mayada Sili, et France Bleu RCFM, Pierre Mar et Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandre. Et notre première chanson est corse, Imouvrini, le célèbre groupe, a réalisé un album avec les élèves du collège des Padoules et Ajaccio. 1 an et 1500 heures de travail pour 16 titres. Nous écoutons ensemble Hai due pulmoni, ça veut dire tu as deux poumons. On écoute Imouvrini.
Uno è verde e l'altro turchino, uno è di foreste, l'altro è marino. Uno cerca lume e poi ste monti, l'altro va già sciume sino all'orizzonte.
C'était les Mouvrini avec les élèves du collège Les Padoules d'Ajaccio. On reste en Corse avec notre premier sujet, Mayada.
Justice d'exception, c'est le titre d'un ouvrage paru aux éditions du CNRS, le Centre français de la recherche scientifique, écrit par Vanessa Codaccioni, historienne, sociologue et maître de conférences à l'Université Paris 8. L'auteur y explique les mécanismes et les raisons qui font que les démocraties comme la France se dotent de juridictions d'exception pour connaître principalement des affaires politiques ou des situations extraordinaires comme aujourd'hui le terrorisme avec la mise en œuvre de l'état d'urgence Pierre-Louis Alessandri.
1981, François Mitterrand, nouveau président socialiste de la République française, abolit la peine de mort et la juridiction d'exception qu'était la Cour de sûreté de l'État, créée en 1963 face au terrorisme de l'OAS, né après l'indépendance de l'Algérie, mais qui jugera aussi les autonomistes activistes corses comme Edmond Siméoni ou les clandestins du FLNC. Avec la guerre d'Algérie, le gouvernement français avait mis en place en 1955 l'état d'urgence, sorti de ses tiroirs législatifs aujourd'hui face au terrorisme. Mais il avait aussi, à cette époque, fait fonctionner une justice d'exception comme les cours martiales d'Alger et d'Oran ou les tribunaux permanents des forces armées. La France, sous le régime de Vichy, avait organisé cette justice d'exception qui se situe hors du droit commun, ce fut les sections spéciales. Et en 1944, le gouvernement issu de la résistance met en place les cours de justice spécialisées dans l'épuration. Vanessa Codaccioni s'intéresse tout d'abord à la manière dont est utilisée cette justice d'exception.
Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment est-ce que la justice d'exception, ça veut dire des dispositions dérogatoires au droit commun qui ne sont pas normales, vont être utilisées contre des opposants, des activistes ou des militants. Ça a toujours existé en France, il y a toujours eu des tentatives de mettre en place des justices d'exception sous la monarchie, sous la Révolution française, sous Vichy à la Libération, mais effectivement, à un moment donné, après la guerre d'Algérie, cette justice d'exception, elle va devenir banale et ordinaire. Donc vraiment, 1963, on crée un tribunal d'exception qui va juger tous ceux qui sont considérés comme terroristes.
Les gouvernements trouveront toujours de bonnes raisons pour organiser une justice d'exception dont une des conséquences est de restreindre les libertés individuelles de façon provisoire ou permanente, exemple proche, notamment la Turquie aujourd'hui. Le terrorisme a été l'occasion pour la France de ressortir la loi de 1955 sur l'état d'urgence en novembre 2015 et qui vient d'être prorogée pour la troisième fois jusqu'en juillet 2017.
L'état d'urgence, il découle de cette justice d'exception. C'est un petit peu la même chose, sauf que, à la différence de la justice d'exception, c'est que dans l'état d'urgence, celui qui a vraiment le pouvoir, c'est le préfet. C'est-à-dire, on court-circuite la justice, et notamment les juges antiterroristes, pour donner énormément de pouvoir au préfet et à l'administration, sans parler évidemment des renseignements généraux. C'est là la vraie spécificité de l'état d'urgence. Pendant très longtemps, en fait, le pouvoir politique a trouvé des juges qu'il mettait sous sa botte, sous sa dépendance. C'est ce que j'appelle, moi, les juges politiques. Mais après 1986, ce n'est plus possible. Et donc, on voit que depuis le milieu des années 80, on essaie de rogner sur le pouvoir des magistrats antiterroristes en leur enlevant du pouvoir pour en donner soit aux services de renseignement, soit à l'administration. Pourquoi ? Parce que ceux-là, ils sont beaucoup plus dépendants du Premier ministre, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est une manière pour le pouvoir politique de récupérer ces affaires-là.
Aujourd'hui, les juridictions d'exception sont toujours présentes, mais elles ont perdu leur caractère politique. Cour d'assises spécialement composée, sans jury, qui a jugé Yvan Colonne, l'assassin du préfet de Corse Erignac, mais aussi d'autres plus anodines et qui n'ont un caractère exceptionnel que par leur spécialité, comme la Cour des comptes, le tribunal pour enfants, les conseils de prud'hommes ou le tribunal maritime commercial, en tout 18 juridictions.
Ça existe toujours, évidemment, en matière antiterroriste, ça existe toujours, mais la différence, c'est qu'avant, les juridictions spécialisées, c'était des juridictions politiques. Aujourd'hui, c'est des juridictions ordinaires, donc par exemple la Cour d'assises, qui va être une juridiction en fait d'exception, puisque c'est une Cour d'assises sans jury. Et donc, on enlève l'élément essentiel de ce tribunal ordinaire, le jury, pour réserver le jugement à des magistrats professionnels. C'est par exemple la cour d'assises spécialement composée, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a jugé Yvan Colonna. Et donc oui, cette justice spécialisée, elle existe toujours. Avant, on jugeait les auteurs d'attentats. On attendait qu'un attentat se commette et on jugeait des auteurs d'attentats pour des crimes. Donc là, il y avait la machine de la cour d'assises qui se mettait en place. Aujourd'hui, on va essayer de déceler des intentions de passer à l'acte, des intentions terroristes. On va essayer de découvrir des associations de malfaiteurs. Et donc, c'est des enquêtes qui durent extrêmement longtemps, qui sont monopolisées par les services de renseignement. Et donc, c'est des petites affaires dont on entend peu parler et qui se déroulent au tribunal correctionnel.
Aujourd'hui, certains avocats français considèrent que les JIRS, juridictions interrégionales spécialisées créées en 2004, pour connaître des affaires compliquées de délinquance financière et de grande criminalité, sont des juridictions d'exception.
Les juridictions d'exception en France comme ailleurs. Mayada, la question, est-ce qu'un pays démocratique doit avoir des juridictions d'exception?
C'est un équilibre aussi difficile à faire. Hein. Est-ce que c'est une atteinte vraiment à la protection des droits et des libertés des citoyens? Est-ce que ça freine les principes du procès équitable? Ça, c'est une grande question à laquelle il faudra effectivement une réponse. Et ça crée la polémique, hein, même ici, hein, au sud de la Méditerranée. Surtout quand on parle de lutte antiterroriste. Mais si tu veux, l'expérience tunisienne a déjà connu une sorte de juridiction d'exception ou de justice d'exception avec la Cour de sûreté de l'État. C'est une cour qui jugeait les figures de l'opposition et surtout les syndicalistes. Ça, c'était sous le régime de Bourguiba et qui a été supprimé après. Mais ce qui attire l'attention, c'est qu'on peut détourner ceci, on peut porter atteinte à la liberté, aux droits et libertés, sans vraiment ces justices de juridiction, puisque après, sous le régime de Ben Ali, justement, il y a eu beaucoup de procès d'opposants et de syndicalistes, mais qui se faisaient devant les juridictions de droit commun, c'est-à-dire on créait de faux procès d'atteinte à la pudeur, par exemple, ou de moralité, mais c'était pour juger des opposants ou des syndicalistes, et ça c'était surtout pendant les événements du bassin minier, on en parlait, en tout cas on a beaucoup de vérités ont été révélées lors des auditions publiques qui ont été réalisées ces derniers mois par l'instance Vérité et Dignité. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein,
c'est compliqué, vraiment. Et puis maintenant, par exemple, les jurys populaires sont remises en question, notamment dans les cours d'assises pour les procès concernant le grand banditisme. Il y a beaucoup de pressions qui sont faites sur les jurés, et souvent ça fausse un peu la décision qui est prise, et maintenant on va plus vers des cours d'assises avec des juges professionnels pour juger ce genre d'affaires et pour éviter justement que les pressions s'exercent sur ces jurés. Voilà, donc ça c'est un point, on va y revenir bien entendu, mais c'est un sujet qui est assez compliqué. Allez, après la Corse, on va aller chez toi, en Tunisie, avec un événement quand même exceptionnel. Et c'est vrai que Kantara devait marquer cet événement parce que le mont Semama, qui est dans le gouvernorat de Kazerine en Tunisie, est une zone militaire, on peut dire, chaude. Elle connaît des affrontements entre militaires et terroristes, les terroristes qui se cachent dans ces collines. Et le mont a été même bombardé par l'artillerie lourde ces derniers mois pour lutter contre le terrorisme qui a rongé ce mont et pour rendre hommage à tous les bergers, les hommes, les femmes, les enfants, les soldats qui ont trouvé la mort. Les habitants de Semama ont choisi la culture comme arme et ont déclaré Semama, ça s'est passé le 29 janvier, capitale universelle de la culture montagnarde. Adnan Ilali, fils de la région, berger, poète et activiste culturel, en parle à ton micro, Mayada.
Cette action, vous la considérez à Adnan Ilali, en tout cas le comité d'organisation la considère comme une action rebelle. Alors pourquoi rebelle?
C'est une action doublement rebelle, c'est contre la présence de ces chauves-souris au mont Semama, Shaam, Bitouche et dans toutes les montagnes tunisiennes, mais c'est aussi contre le passivisme administratif et la passivité culturelle dont souffre le pays. Pour cette raison, on annonce, on déclare Semama capitale universelle de la culture montagnarde. L'âme de ces démarches culturelles montre bien qu'il s'agit d'un projet profondément rebelle qui s'accentue, qui se consolide avec le temps et avec le soutien des amis.
Ce projet, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a démarré quand même en 2015.
Oui, en 2015, et à côté de la zone militaire au Mont Semama, nous avons fait poulailler, un ciné-jbel ou le ciné-poulailler. Nous avons créé un petit cinéma pour les petits montagnards à la montagne Semama, un petit cinéma alternatif qui abrite aujourd'hui les membres de la montagne et qui parfois accueille quelques activités théâtrales et des lectures. Ces festivités visent d'abord l'encouragement des artistes locaux, des bergers de Semama, les voix de Semama, ces bergers qui chantent bien leur répertoire.
Et ça se passe dans ce théâtre du Jbel qui a été creusé il n'y a pas très longtemps, donc c'était en décembre, avec les jeunes bergers, c'est ça, de la région.
Le 25 décembre, nous avons creusé ce théâtre. Des dizaines d'artistes et des bergers de la montagne étaient là dans un petit chantier. Il ne faut pas se contenter de creuser métaphoriquement et virtuellement. Il faut creuser parfois concrètement. exactement. C'est-à-dire, il faut garder l'épée sur terre. Et nous avons creusé ce théâtre que nous avons appelé le théâtre d'El Felleg. Et aussi, c'est un théâtre de résistance directe face à l'obscurantisme qui est à quelques pas. Et peut-être que les terroristes sont en train de voir de loin ce théâtre qui les hérite.
Donc, c'est un message très fort, justement, que lancent les jeunes de Samema.
Ouais, c'est l'attachement à la terre, c'est l'attachement à la colline, c'est le patriotisme inné dont on parle à chaque fois.
Ouais. Et c'est certainement aussi une façon de dire qu'ils sont les propriétaires de ce mot.
Bien sûr, c'est dire qu'ils sont là, qu'ils sont contre l'exode. Au contraire, c'est un moment d'attachement à la terre, à la montagne, malgré les mines, malgré les blessures, malgré les morts. Certainement, on ne peut pas parler de ce même et de ce même capitale universelle de la culture montagnarde sans parler du premier centre culturel de montagne en Tunisie, peut-être dans tout le monde arabe, où la montagne est devenue synonyme de marginalisation, de pauvreté et surtout ces derniers temps de peur et d'horreur. On a lancé, grâce au soutien de la fondation Wolf Rombourg, le chantier du premier centre culturel de montagne, ce centre culturel typique qui est en train de se créer. Le chantier est lancé sur une colline de Samama depuis un mois et les activités aussi, on est en train de les discuter afin d'en faire un projet culturel pilote inspiré de la spécificité matérielle et immatérielle de la montagne tunisienne. Donc c'est important aussi de parler du concret. Nous aurons un superbe centre culturel qui sera ouvert à l'occasion de la 16e fête des bergers, c'est-à-dire le 19 mai prochain. C'est important aussi de montrer aux gens que la culture, c'est pas seulement une manifestation, c'est pas seulement un chant ou une métaphore. La culture, c'est aussi un bâtiment, c'est aussi de la concrétisation. Et c'est dont je parle maintenant, c'est-à-dire essayer de garder l'épée sur terre tout en rêvant, tout en songeant à un avenir meilleur de la montagne tunisienne.
Quel beau symbole, Mayada, de voir bien la culture s'opposer au Kalachnikov. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tombés pour cette lutte, pour la culture, pour la liberté. Il y a même un cinéma, il y a un théâtre qui a été creusé. Mais on sent qu'il y a une volonté si forte dans cette région de Tunisie que ça mérite le respect, qu'il fallait qu'on en parle dans Kantara.
Absolument. Moi, j'ai choisi d'en parler parce que c'est une forme de résistance qu'on salue. Effectivement, ce sont les habitants de Samama qui ont choisi de déclarer. C'est symbolique. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas une autorité ou une organisation onusienne derrière cette initiative, mais ce sont les gens de Samama qui ont décidé d'en faire une capitale universelle, donc pas une méditerranéenne ou africaine ou arabe, vraiment universelle, de la culture montagnarde pour célébrer la culture, mais surtout pour rendre hommage à tous ces bergers innocents qui sont morts entre les mains de ces terroristes qui se trouvent encore malheureusement dans certains monts en Tunisie, mais surtout dans cette région de Gasserine. Moi, j'ai une pensée très forte au jeune Mabrouk Soltani, par exemple. C'est un jeune berger de 14 ans qui a été égorgé. À ce berger aussi qui a été égorgé il y a 2 ans et dont la femme a fait preuve d'un courage extraordinaire et exemplaire et qui passait à la télé et qui défiait ces terroristes pour leur dire non, on s'arrêtera pas, le monde nous appartient, on va y aller avec nos troupeaux, avec notre famille. C'est une sorte de résistance pour que la peur ne s'installe pas dans cette région. Donc c'est vrai, c'est à saluer, Thomas.
C'était la Tunisie. On y reste avec une chanson que tu nous as choisie, Mayada.
Oui, puisque nous parlons de résistance, justement, j'ai choisi de rendre hommage cette semaine à un chanteur engagé tunisien qui s'appelle Hedi Gella. Et c'est une jeune artiste qui lui rend hommage. Elle s'appelle Abir Nasraoui. Et la chanson a pour titre Yababour. Enfin, Yababour en arabe, ça veut dire, en arabe dialectal, hein, ça veut dire le bateau. Ça raconte un petit peu l'histoire de tous ces jeunes qui traversent la Méditerranée dans une migration irrégulière à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche d'un rêve à réaliser ou à concrétiser. Donc Abir Nasraoui nous chante Yababour.
Je m'en Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Voilà, nous étions en Tunisie, nous allons en Égypte qui se replace un peu, je dirais, dans l'Union africaine, Mayada.
Oui, au cours des deux dernières années, l'Égypte s'est efforcée de se repositionner dans le continent africain après 7 décennies d'absence. L'Égypte a adopté une politique d'intégration illustrée notamment par la présence du président Sisi lors des sommets de l'Union africaine et de ses différentes institutions. À Sharm el-Cheikh, les représentants du marché commun de l'Afrique orientale et australe, de la communauté de développement d'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est ont même signé le 10 juin 2015 sous l'égide de l'Égypte un accord de libre-échange. Le 20 février 2016, la station balnéaire du Sud Sinaï a également accueilli un autre rassemblement africain, le Forum Africa 2016. Il s'agissait du premier événement panafricain d'une telle ampleur organisé par l'Égypte. Ce forum a accueilli une douzaine de chefs d'État, une vingtaine d'agences de promotion, des investissements et près de 2000 participants. Une diplomatie qui a porté ses fruits puisque l'Égypte a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, décrochant le siège de représentant de l'Afrique du Nord pour un mandat de 3 ans. Le problème reste que tous ces efforts s'effectuent loin des projecteurs des médias africains. Comment les Africains voient-ils l'Égypte? Est-elle vraiment présente dans leur pays? Dina Abdelmajid a posé ces questions à un groupe de jeunes journalistes africains.
Je suis Adèle Kouassi de la Côte d'Ivoire. La foire d'Égypte, c'est chaque année. Ça va faire 5 ou 6 ans maintenant. Et il y a la caisse table qui est au plateau, qui est à 5 mètres de la radio. Et avant que la foire d'Égypte ne commence, ils font 2 semaines de communication, télé, radio, presse en ligne, presse écrite. Et ils arrivent, tout le monde est informé qu'il y a la foire de l'Égypte. Et c'est archi-comble. C'est la caisse table, au plateau, dans le milieu, dans le quartier des affaires de la Côte d'Ivoire et à la capitale. Tous les Ivoiriens, presque tous les Ivoiriens d'Abidjan vont acheter des objets, que ce soit des appareils électroménagers, en tout cas des bijoux, tout. On achetait plein de choses là-bas. Et les gens même de l'intérieur du pays ont l'information. Donc ils venaient acheter vraiment un peu de tout. Et nous, on pensait que les Égyptiens allaient acheter ces articles aux États-Unis, en Europe. Ils venaient nous vendre ça. Et après, les Égyptiens eux-mêmes ont commencé à faire des conférences pour nous dire que c'est eux qui fabriquaient. Par exemple, les huiles de carotte, les huiles de tilleul, de thym pour la beauté, puis pour les cheveux, et puis ils ont de la haute parfumerie. Donc c'est ce qui même m'a motivé à venir sur place, à faire des achats pour aller vendre.
En fait, c'est une longue histoire avec l'Égypte, parce que moi, personnellement, j'ai eu des enseignants égyptiens au collège, parce que j'ai étudié l'arabe. Donc j'ai fait une école franco-arabe. Depuis les années 90, 80, on a toujours des coopérants égyptiens. Et puis bon, souvent, l'Égypte octroie des bourses pour nos étudiants, nos jeunes étudiants, pour venir étudier à l'université d'Azhar, à l'Azhar ou bien à l'université d'Alexandrie. Donc c'est vraiment une coopération technique. Et dans le domaine aussi de l'agriculture, chaque fois, il y a des stages, des étudiants nigériens qui viennent ici à Alexandrie pour se perfectionner dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, mais aussi en ce qui concerne la coopération entre les armées, notamment la police, la gendarmerie et tout ça. Là. Donc c'est vraiment une coopération diversifiée, c'est vraiment une coopération très renforcée et historique entre le Niger et la République arabe d'Égypte.
Moi, c'est Herman du Bénin. Je sais que depuis très longtemps, je sais qu'il y a une politique entre notre gouvernement et le gouvernement égyptien, puisqu'il y a des policiers qui viennent se faire former ici aussi. Mais réellement, c'est vrai, il y a une ambassade, mais il n'y a pas trop de communication sur tout cela. Et on souhaiterait que ça soit vraiment très, très présent, cette communication, parce que l'Égypte est un géant en Afrique que les Africains ne connaissent pas. Il a fallu que nous venions ici pour comprendre que la vie est moins chère, les gens mangent moins cher ici, dans un pays où tout le monde profite du Nil. Et la seule idée qui me vient, moi, en tête, depuis que je suis en Égypte, c'est de commencer un commerce, puisque nous avons des chemises qu'on achète à 25 livres, à 35 livres. Ces mêmes chemises, on les achète à 100 à 200 livres voilà, dans nos pays. Donc c'est une occasion pour nous de permettre à l'Égypte de s'exporter. C'est un géant de l'Afrique, mais qui malheureusement ne rayonne pas comme il se devrait. Il a fallu qu'on vienne ici pour comprendre. Sinon, quand on est là-bas, on pense que tous les jours, dans toutes les rues, il y a des attentats ici et que les Égyptiens sont toujours en train de fuir voilà, les attentats. Donc, l'Égypte a besoin de mettre un peu de lumière sur ce qu'elle est ben, voilà, dans les autres pays de l'Afrique. Et forcément, ce sera une grande puissance demain pour l'Afrique.
La coopération entre l'Égypte et la Guinée existe depuis l'indépendance de la Guinée. Notre première grande université de la Guinée porte le nom de Gamal Abdel Nasser. Il y a 30 ans de cela, moi, mon grand frère, il est policier, il est venu suivre ses formations ici et plus tard, il est devenu directeur général de la police en Guinée. Je sais qu'il y a une coopération très large entre l'Égypte et la Guinée. Ça existe, ceci. Mais bon, certainement, il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. C'est pourquoi, moi, je suis du secteur privé. L'ambassadeur m'a dit, nous travaillons avec le secteur public depuis longtemps, mais je ne vois pas l'impact de la communication dessus. C'est pourquoi je te demande de toi aussi, partir en Égypte, voir que toutes nos femmes ne sont pas voilées. Comme ça, quand tu reviendras dans ton pays, tu vas donner ta version des choses. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est une coopération qui existe. L'Égypte, c'est une puissance. Ça, je l'ai remarqué. Mais ils se démarquent plus vers le Moyen-Orient. Ils ont 17% du marché égyptien et du Moyen-Orient. Donc, pour moi, l'Égypte devrait revoir un peu sa politique diplomatique vers l'Afrique. Savoir que c'est là, se trouve vraiment à l'avenir.
L'Égypte doit rayonner un peu plus, hein. C'est un peu le vœu commun de tous ces journalistes interviewés par Dina Adelmeguide pendant le Forum Africa 2016. Alors moi je te pose une question très personnelle Mayada, quelle image a l'Égypte pour toi hein, dans ce monde, dans ce sud de la Méditerranée et dans cet est de la Méditerranée
Mais écoute, l'Égypte, pour moi, à titre personnel et en tant que Tunisien, c'est un grand pays. C'est un pays qui a une grande histoire. C'est un pays frère qui occupe une place importante, pas uniquement en Afrique, mais même dans le monde arabe. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce que il y a beaucoup de figures enfin, qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué notre enfance. Donc voilà, c'est ça l'Égypte. Hein. Et puis c'est un pays aussi qui réunit, je dirais, la sphère MENA, les pays arabes en général. Donc voilà, c'est un pays avec lequel on partage beaucoup de choses et un pays qui rassemble, hein, je dirais, qui rassemble un peu les pays arabes.
C'est un peu un pays symbole, hein, l'Égypte.
Absolument.
Et nous, on a une représentante avec Dina Belmeguide qui est une merveille et qui représente avec panache, on peut dire, hein, son pays. On va rester en Égypte justement avec une chanson que nous a choisie Dina, Mayada.
Oui, Dina nous a choisi la chanteuse libanaise Nancy Ajram qui nous interprète Amlala.
بعد ويسيبني وتمني بحبه بيحسبني هفضل كده سايبه يعذبني وينسى هوايا يبعد عني ونادي عليك واللي انبت في بمصباح فيك بس الامتى انا كده هبديك يا قلبي كفاية انا مليت اتعب واتحمل واعمل عقلة
C'était la chanteuse libanaise Nancy Ajram qui était choisie par Dina. Après l'Égypte, on va en Espagne où il se passe toujours quelque chose et toujours quelque chose de très intéressant et je dirais même de différent. C'est le cas. Ça parle de football et la question que pose Iman aujourd'hui, est-ce que les clubs de football en arrivent-ils à oublier leur ancrage hein, régional dans leur ville et les incidents enregistrés ces derniers jours à Vallecas, une localité de la proche banlieue de Madrid, de la ceinture ouvrière de la capitale, portent à le penser. La l'annonce de la venue d'un joueur ukrainien considéré clairement proche de l'extrême droite de son pays a provoqué la colère et le rejet frontal des supporters. Le joueur Roman Zozulia apparaît sur les réseaux sociaux en compagnie de militants d'extrême droite portant fanions et tenues militaires, là où d'autres nous ont plutôt habitués à des photos de leurs coupes de cheveux extravagantes, leurs bolides ou leur énième fiancée. Les protestataires ont obtenu que Zozulia reparte à Séville, mais la Fédération du football espagnol menace. Reportage Emmanuel Hazard.
Les supporters d'un club madrilène de football s'opposent à la venue d'un nouveau joueur au sein de leur club. Le Rayo Vallecano est en effet davantage qu'un club. Sa spécificité lui vient de son propre quartier, Vallecas, un quartier humble, nourri de lutte et de mobilisation, un quartier auquel prêtres, ouvriers et militants de gauche ont imprégné une manière de voir la vie différentes. Ici, les supporters sont capables de vous dire « on préfère chuter en seconde B plutôt que de se renier ». Dimanche dernier, alors que l'événement sportif était la victoire de l'équipe face à l'Almeria, une victoire après plusieurs semaines de résultats négatifs, la préoccupation d'une bonne partie du public était de protester contre la venue d'un joueur ukrainien, Roman Zozulia, transféré du Betis. Des supporters sont allés voir qui était le joueur en question sur les réseaux sociaux, par internet, et ont découvert que le jeune homme de 28 ans était un familier des fanions pro-nazis. Des photographies de Stepan Bandera, figure de proue de la collaboration nationaliste ukrainienne avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Zozulia apparaît dans moult photos, mais pas comme le reste des footballeurs, pas à l'occasion de ses fêtes anniversaires, pas pour ses coiffures exubérantes, pas pour ses muscles mis en avant. Non, il apparaît dans moult photos avec des éléments du bataillon Azov et avec des symboles du Pravi Sector. À Vallecas, on ne mange pas de ce pain-là. Un refus présenté d'abord comme un mouvement de grogne des ultras de gauche, Los Bucaneros, mais qui dimanche s'est révélé de plus en plus général.
Que no juegue. Una persona con ese comportamiento y con esas ideas que tiene no puede jugar en un barrio como Vallecas.
Non, qu'il ne joue pas, une personne avec ce comportement et avec ses idées qu'il a ne peut pas jouer dans un quartier comme Vallecas. Nos reporters du service des sports ont rencontré peu de défenseurs de la décision de la direction du club, même si l'on reconnaît que le joueur pourrait apporter un plus au club, un plus en termes de football. Le président d'une de ces peñas, Ángel González.
La disconformidad con este fichaje, o sea, esto no es una cosa del colectivo Bucaneros, es una cosa generalizada de las peñas.
Nous ne sommes pas d'accord avec ce recrutement. Ce n'est pas simplement la position du collectif Bucanero, mais c'est une position généralisée parmi les supporters. Les supporters, justement, qui ont fait le déplacement au stade, ont hué le propriétaire du club, Raúl Martín Presa, qui détient 98,6% des actions et à qui ils ont reproché de ne pas avoir tenu compte des sentiments des supporters et de la population du quartier de Vallecas. En fait, le contrat avait déjà été signé et il va jusqu'à juin. Le joueur ukrainien est retourné à Séville, mais le problème reste entier, d'autant plus que le président de la Ligue de football professionnel, Javier Tebas, n'exclut pas une plainte en justice contre le Rayo ou des supporters du Rayo. Pour ce recrutement frustré, pour sa part, l'ambassade d'Ukraine a émis un communiqué où elle défend le joueur et laisse entendre que tout cela n'est autre que le fruit de la propagande russe. Peut-être que cette rébellion des masses du Rayo Vallecano soit le signal qu'en plus de se préoccuper pour les heures de retransmission pour la Chine ou le Japon, de la publicité, des droits de télévision, des tournées internationales, les clubs devront désormais se préoccuper de nouveau pour leur ancrage dans la société et de leur lien avec les gens du lieu dont ils se disent les défenseurs des couleurs.
Voilà, et oui, les footballeurs sont des mercenaires, peu importe le maillot qu'ils portent. Maintenant, ils pensent d'abord à eux, et là, c'est un peu le cas. Et pour parler de cette histoire du Rayo Vallecano, qui est quand même un club qui est important dans l'histoire du football espagnol, qui est de la Liga, nous avons en direct Iman Ouinzard. Bonjour Iman.
Bonjour Thomas, bonjour Mayeda.
Bonjour Iman.
Alors, notre ami Roman Zozulia est reparti à Séville, parce que les supporters ne l'ont pas voulu. Cette équipe de Rayo Vallecano, ce club, a quand même une histoire forte, une histoire qui est plutôt à gauche.
Oui, c'est une histoire qui est clairement à gauche. C'est d'ailleurs le seul club qui a, disons, des ultras de gauche. Mais cette affaire va bien au-delà des ultras. Ce sont les supporters, toutes les peñas, différents groupes de supporters qui se sont prononcés contre la venue de ce joueur qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout adaptable à ce qu'est la ville. Quelqu'un qui est clairement militariste, etc., qui se promène avec des fanions d'extrême droite. C'était vraiment comme, un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi.
Alors justement, une question un peu qui est plus générale. On sait qu'il y a certains clubs qui ont une forte identité. Je parle des clubs basques, je parle de Barcelone, qui sont une forte identité, soit catalane, soit basque ou d'autres régions. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de maintenant de mercenaires du football qui viennent jouer dans ces clubs-là, qui sont souvent des étrangers avec des équipes qui sont composées à 80% d'étrangers. Est-ce que tu penses que ça modifie complètement l'engagement des supporters auprès de leur équipe, ou alors les supporters d'abord ils pensent à leur couleur plus qu'aux joueurs qui portent ces maillots?
C'est très difficile à dire parce que peut-être qu'à capital égal, les supporters du Real Madrid sont plus détachés de leur équipe. C'est-à-dire que, ils aiment quand leur équipe gagne, etc., mais ils la sifflent dès qu'elle commence à un peu s'essouffler. Alors que dans le cas, par exemple, que tu citais du Barça, eh bien, le Barça est, disons, politiquement plus qu'un club. Donc, il y a une forte adhésion. Mais les grands clubs, disons que dans le cas du Rayo Vallecano, sa grande chance, c'est d'être un club pauvre. Il n'y a pas de grandes vedettes et ils ne peuvent pas se les payer. Donc, le club reste très proche des gens de la petite ville, du quartier, j'allais dire, de Madrid. Et donc, ce n'est pas possible d'amener quelqu'un d'aussi étranger aux valeurs du lieu, parce que, évidemment, il ne peut pas... C'est pas Ronaldo qui vit dans un quartier totalement sécurisé où les gens ne vont pas, etc., et les gens voient passer les bolides quand les joueurs du Real Madrid arrivent, mais ils n'ont pas de contact direct, alors que là, oui.
Écoutez, moi et le football, ça fait deux, je comprends rien au football, mais ce que j'ai retenu de positif, en tout cas ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est que le football, finalement, ce n'est pas... C'est plus qu'une activité physique, ça peut être aussi porteur de valeurs morales, et c'est donc à saluer.
C'était Iman Ouinzard en direct de Madrid. Au revoir Iman, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir Iman, merci, à la semaine prochaine.
Allez, on va rester en Espagne avec une chanson que nous a choisie Iman. Natalia Lafourcade, il faut le prononcer comme ça, est une chanteuse qui nous vient du Mexique. Une de ces jeunes artistes talentueuses qui depuis peu cartonne en Espagne. Le site La Higuera, spécialisé dans le succès, nouvelle tendance musicale en Espagne, la place en numéro 1 de son dernier classement. Alors Iman nous propose d'écouter que construimos se acabó, ce que nous avons construit est parti, donc chanté par la jeune Natalia Lafourcade.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos. Pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena. No creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena. No creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó.
Le magazine de la Méditerranée.
Voilà, nous étions en Espagne avec un petit passage au Mexique avec Natalia Lafourcade, une chanteuse que nous a choisie Imane Wazar. Et après l'Espagne, nous allons au Maroc, Mayada.
Au Maroc, où le Salon du Livre n'a pas failli à sa promesse. Cette année, la 13e édition du Salon international du Livre et de l'édition de Casablanca a invité du 9 au 19 février des écrivains, des poètes du Maroc, du Maghreb ou d'Europe. L'invité d'honneur était les pays africains de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les attentes des hommes et femmes de lettres et des lecteurs et du public? Nadira Boulkhoutou en parle avec Abdelleh Baïda, auteur du livre « Nom d'un chien » paru aux éditions Marsama.
C'est Abdelleh Baïda, qu'est-ce qui caractérise cette édition du Salon du Livre, vous qui êtes romancier et critique littéraire?
Alors, je dirais qu'il y a deux dimensions intéressantes dans ce salon de l'édition et du livre de Casablanca. C'est qu'il y a une dimension festive, c'est une rencontre autour du livre avec les différentes composantes de la chaîne, à la fois la composante éditeur, la composante auteur, la composante lecteur et grand public. Et il y a bien sûr l'autre composante, à côté de la composante festive, c'est une composante instructive, parce que c'est un moment de focalisation sur le livre, et bien sûr l'objectif est d'amener notre société, la société marocaine, à s'intéresser à cet objet d'instruction qui est le livre.
Qu'est-ce qui caractérise la littérature marocaine contemporaine ?
Alors, je dirais que ce qui caractérise la littérature marocaine en général, c'est que c'est une littérature assez jeune Et surtout, également ces dernières années, cette littérature connaît une dynamique très intéressante, très importante. Je dirais que c'est une dynamique qui a commencé depuis la fin du siècle dernier, c'est-à-dire les années 90, et que ça continue dans cette lancée, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, parce que ces dernières années, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, à 2017, la quantité de publications et la qualité sont très importantes. Donc il y a cette dynamique.
Quelques références, Serdlav Beda, quelques auteurs qui ont pu marquer la scène littéraire marocaine, des poètes, des dramaturges, quelques noms, quelques ouvrages que l'auditeur pourrait apprécier et lire.
Bien sûr, à côté de la première génération qui continue à écrire, dont Abdeltef Lahbi, qui est toujours parmi nous, et également des écrivains arabophones comme Mohamed Barada, comme l'Ash'ari, comme Hassan Jmi, il y a toute une nouvelle génération qui publie. Je connais, hélas, un peu plus ce qui s'écrit en français que ce qui s'écrit en arabe, mais dans la sphère de ce qui s'écrit en français, je citerai Mounir Selhani, Rachid Khalès, Hissam Dine Tber, Reda Dalil. Bon, il y a toute une génération jeune, et il y a aussi des jeunes et du moins jeunes, je citerai Mamoun Lahbabi, et n'oublions pas une composante qui est très importante dans notre littérature maintenant, c'est la présence féminine, qui était très absent dans la première génération. Et dans cette présence féminine, je citerai par exemple Lamia Barada, qui est dans un projet d'écriture très intéressant, Baha Tarablsi, Boutaina Azami et Rachida Madani. Donc nous avons toutes ces femmes qui s'inscrivent non plus dans le discours de la génération précédente qui était un discours revendicatif, mais qui ont vraiment un projet d'écriture et qui donne des textes, à mon avis, très intéressants.
Voilà, nous étions à la 13e édition du Salon international du livre et de l'édition de Casablanca, qui s'est tenu donc courant février. C'est vrai que c'est symbolique, là aussi, Mayada. Je me souviens qu'après le chaos qu'a connu la Tunisie avec les attentats, il y a eu des salons du livre qui étaient menacés, mais qui se sont tenus. Et là aussi, la culture, je dirais, s'est érigée contre la guerre et contre les terroristes.
Absolument, il faut promouvoir effectivement ce genre de salon et ce genre d'initiative, même s'il y a une sorte de crise dans nos pays. Ce n'est pas vraiment une crise au niveau de la production littéraire, mais je dirais crise intellectuelle ou de lecture. D'après une récente étude réalisée dernièrement par des organisations en partenariat avec le PNUD, il y a une sorte de décadence dans tout le monde arabe et dans toute la région, et le livre, donc, il fait de moins en moins partie de la vie du citoyen. Et si je prends le Tunisien comme exemple, eh bien, le Tunisien consacre, selon cette étude, 50 heures par an pour la lecture.
C'est peu, bah, oui, c'est très peu. Allez, les gens lisent un peu plus. Alors après le livre, la chanson. Et la chanson que nous a choisie Nadira est interprétée par Zina Daoudia.
Rendez-vous. Réchauffons notre lèvre.
Comme chaque semaine, notre agenda culturel, et l'on commence par le Maroc.
Les œuvres de l'inoubliable Chaibia, exposées aux côtés de celles de son fils Hussein Talel jusqu'au 22 mai à Casablanca, à l'Espace d'Art. Une exposition sous le thème Chaibia, une œuvre miroir. L'étoile de Chaibia avec leur forme libre d'une spontanéité toujours renouvelée, conjuguée à un expressionnisme dramaturgique, sont à voir. Chaibia est une autodidacte, son talent a été découvert aux USA. Elle nous a quittés en 2004.
L'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis organise une exposition collective des œuvres des enseignants et des travaux des étudiants. L'exposition se poursuit jusqu'au 25 février au Centre culturel Ebn Rachik.
La musicienne Yasmine El Barmaoui a fait du luth son principal moyen de communication. Elle mêle la musique arabe classique au rock, au jazz et à l'électro. En solo, elle traduit avec son luth les émotions les plus pures, une palette de sentiments variant entre colère, amour, violence, haine et humiliation, de quoi toucher forcément les auditeurs. Ainsi, Yasmine El Barmaoui, 35 ans, est parvenue à s'imposer en tant que musicienne-compositrice. Le 23 février prochain, elle se produira à l'université américaine du Caire et le 2 mars à 20h à Dahouse.
La peinture égyptienne contemporaine et plus particulièrement la peinture surréaliste est à l'honneur au musée Reina Sofia à Madrid. Art et liberté, rupture, guerre et surréalisme en Égypte 1938-1948 a été inaugurée le mardi 14 février. Elle propose pas moins de 130 tableaux de plus de 30 artistes égyptiens du collectif Art et liberté, fondé au Caire durant la Deuxième Guerre mondiale par des artistes comme Fouad Kamel, Ramsès Younan, Kamel Al-Telmissani ou Georges Hénène. L'exposition restera au Reina Sofia jusqu'au mois de juin.
Et l'art se délocalise. La commune de Lecce de Porto Vecchio vous propose sur les murs de sa mairie l'exposition de Romi Fancello Olivieri. Le peintre y expose ses pastels jusqu'au 15 mars.
Voilà, ce Cantara est en train de se terminer. On rappelle que Cantara est une coproduction Radio Le Caire, Radio Estéreo d'Espagne, RCFM, chaîne Interrabat, Alger chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale. Ici à Ajaccio, Cantara a été réalisé par Stéphane Casalonga.
Et à Tunis, par Nawel Saïdi.
Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour écouter ou réécouter Cantara et pour redécouvrir tous nos reportages. Voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir écouté Cantara. Merci Mayada, à la semaine prochaine.
Merci Thomas, à la semaine prochaine.
Au revoir.